Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
Sans cette aide financière-là, j'aurais pas pu tenir, j'aurais pas pu payer mon loyer, nourrir mon fils. Mais là, j'étais pleine de certitudes. Pas des certitudes sur ma réussite, mais des certitudes sur le fait que je devais aller me confronter à ça. Je savais que mon destin était d'aller essayer d'être bergère. J'étais pas très bonne à l'école, je comprenais pas trop à quoi servaient les études quand on est obligé de les faire. Tout le collège et tout le lycée, ça a été épouvantable. Je regarde le souvenir d'une torture. J'ai fait une école de cinéma qui était assez concrète, assez pragmatique, puisqu'on organisait des tournages. Et j'ai commencé à m'intéresser aux études et au savoir-faire à partir de ce moment-là. Et puis j'ai ensuite travaillé pendant 6 ans comme intermittente du spectacle, à la fois pour organiser des tournages et puis en freelance dans la communication. J'élaborais, je concevais le graphisme pour des pièces de théâtre, pour des pochettes de CD, pour des logos. Je n'étais pas très penchée vers la campagne, j'aimais pas ça. Et un jour, par hasard, j'ai découvert, grâce à un séjour en Normandie, un séjour dans la Manche, j'ai découvert l'univers des prés salés. C'est un univers très particulier, c'est un bord de mer avec des prairies qui sont recouvertes par la mer. Et entre deux grandes marées, des moutons y pâturent. Et ce mode d'élevage, qui ne m'avait jamais intéressée auparavant, m'a fait comme un électrochoc. Et j'ai trouvé que c'était un équilibre rural assez parfait entre patrimoine, tradition, respect des animaux, race locale. Il y avait tout ça dans cette agriculture de qualité. Et j'ai souhaité devenir éleveuse. J'étais enceinte et c'est pendant ma grossesse que j'ai repris une formation dans un lycée agricole, qui est le lycée agricole de Coutances. La formation en elle-même s'appelle un BPREA, c'est un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Ça se fait en 1 an, ce qui est pratique quand on est adulte, puisque quand on est déjà à l'âge adulte et dans la vie active, on n'a pas envie de se relancer pour 2 ou 3 ans d'études. Donc une année d'études pour pouvoir être opérationnel, c'est parfait. Comme je n'avais pas d'apport, tout est passé par un prêt. Ça a été refusé au début, puisque ce projet a été considéré comme trop fragile, pas assez rentable et pas de nature à faire vivre quelqu'un. Donc moi, j'ai eu une première vague d'investissement au moment de mon installation d'environ 50 000 euros. C'était pour acheter des animaux, pour acheter donc un tracteur, pour acheter des terres. C'est pas énorme, ça, 50 000 euros, mais quand on démarre et qu'on connaît pas encore le métier et qu'on n'a pas des bons résultats, les premières années, c'est dur à rembourser, hein, c'est des grosses sommes. Et ça m'a empêché de me payer et de me rémunérer pendant les premières années. Donc les 5-6 premières années étaient vraiment très très dures. Heureusement que j'ai eu l'aide du RSA, puisque sans cette aide financière-là, j'aurais pas pu tenir, j'aurais pas pu payer mon loyer, nourrir mon fils. Et au bout de 7-8 ans, quand j'ai remboursé cette somme, j'ai investi 35 000 euros pour acheter un bâtiment en dur, alors qu'au départ, je mettais mes brebis dans un tunnel, une serre en plastique, qui n'est pas un très bon bâtiment d'élevage, mais ce qui permettait de démarrer sans gros investissement. Je n'envisageais pas que devenir éleveuse serait un combat. Je voyais cette activité pastorale comme assez pacifiste, assez solitaire, assez tranquille. Et puis, chaque choix que j'ai voulu faire, c'est mon choix de m'installer, d'être une femme, installée dans un monde rural plutôt masculin, d'avoir un système d'élevage alternatif, avec des choix d'élevage plutôt extensifs, plutôt naturels. tout ça m'a donné l'impression d'être un ovni dans le monde agricole et de devoir le justifier, de devoir me battre, de devoir monter au créneau pour défendre qu'on peut faire de l'élevage de cette manière. Et puis un jour, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais super engagée et que je ne pourrais plus revenir à une vie juste pépère visant à défendre mon propre confort ou ma propre qualité de vie. Les élections municipales approchaient, le maire sortant ne se représentait pas, il n'y avait pas de candidat sérieux qui se présentait ici. Et avec d'autres habitants, un peu comme un défi, on s'est dit « Eh, ce serait bien qu'il y ait une deuxième liste qui se monte pour qu'on donne le choix aux habitants ». On a dû être convaincants puisqu'on a été élus. Donc c'est une grande fierté, un grand honneur. Du jour au lendemain, il faut s'y connaître en fiscalité, en droit public, en gestion de la fonction publique territoriale. Il faut s'y connaître en tout. Donc l'apprentissage de la vie municipale de l'intérieur, ça a été assez intense. Mais il y a des choses quand même qui m'ont heurtée assez vite, c'est de découvrir qu'une petite commune n'a presque pas de compétences. Et j'en ai ressenti de la frustration en ayant l'impression que finalement, le champ de compétences, le champ d'action d'une commune était assez restreint, assez superficiel. Ça ne va pas très loin, ça ne donne pas beaucoup de marge pour faire changer les choses ou pour véritablement influer sur son territoire. Ces compétences-là, environnement, vie économique, elles sont désormais gérées à l'échelle au-dessus, c'est-à-dire les intercommunalités. Donc je me suis impliquée dans mon interco en devenant vice-présidente au tourisme, ce qui permet d'avoir un peu plus de levier sur un sujet, d'avoir un peu plus de moyens et d'essayer d'influer sur un territoire aussi un petit peu plus grand, puisque une interco, c'est... La nôtre, c'est 30 communes. 30 petites communes, mais n'empêche, 30 communes réunies. Donc on peut faire plus de choses. Et rapidement aussi, je me suis sentie frustrée du fait que on peut pas trop changer le monde. Et j'ai eu la chance que me soit proposé de rejoindre une liste aux élections régionales. Et là, j'ai compris que ça allait amener à l'endroit où se passent les choses et où se prennent les décisions. Et la liste sur laquelle je figurais, la liste d'Hervé Morin, l'a emportée. Donc c'est une grande chance, et là pour le coup c'est très impressionnant, c'est une grande chance d'arriver à l'endroit, enfin au cœur du réacteur, là où les budgets sont énormes, là où les techniciens sont super qualifiés, et où on peut écrire les politiques publiques. J'ai plus du tout la même disponibilité de temps pour m'occuper de la ferme et il a fallu que j'embauche quelqu'un. Donc l'exploitation fait actuellement vivre ma salariée qui fait tout ce que je ne peux plus faire, même si on passe quand même du temps à travailler ensemble parce que ça me manquerait. Sinon, la raison pour laquelle je suis arrivée ici, c'est les moutons. C'est le pastoralisme, c'est l'envie de produire de la viande de qualité. Dans un système qui est une forme d'éco-pâturage, qui met en valeur des races locales. Donc je ne veux pas devenir une élue hors sol qui est déconnectée de sa réalité professionnelle. Le monde agricole, il a besoin d'être défendu, il a besoin d'être mieux connu, d'être analysé, d'être décrypté. Quand je me suis installée ici, ça a fait un petit peu tiquer les exploitants d'une cinquantaine d'années, mais pas du tout ceux qui avaient 70 ou 80 ans, parce que eux, dans leur mémoire, dans leur inconscient collectif, leur mère et leur grand-mère avaient été des matriarches dans les fermes. Et la manière dont moi je travaillais avec mon troupeau, c'est-à-dire de manière un peu archaïque, avec un petit troupeau, avec mes petits agneaux et tout, leur faisait penser à leur maman et leur grand-mère. Et beaucoup de vieux éleveurs sont venus me voir par ce prisme, en m'amenant en fait des photos de leur mère et de leur grand-mère, en me disant que je leur rappelais cette facette-là de l'agriculture historique. Je pense que ma famille aurait été inquiète si elle avait senti que j'étais en hésitation. Mais là, j'étais pleine de certitudes. Pas des certitudes sur ma réussite, mais des certitudes sur le fait que je devais aller me confronter à ça. Je ne me posais pas de questions existentielles, je savais que mon destin était d'aller essayer d'être bergère. Donc ils m'ont plutôt encouragée en disant « bah écoute, si tu le sens, juste prépare-toi bien, on sera là si ça marche pas, on t'hébergera et tu auras toujours une assiette chez nous si jamais tu t'en sors pas. » Tous les matins, je me demande si j'ai bien fait de garder une activité professionnelle. En ayant l'impression de bâcler les choses ou que le temps que je donne à mes brebis, c'est du temps en moins pour les habitants. Et À d'autres moments, je m'en réjouis en me disant que maintenir mon activité à la ferme, ça va me servir de garde-fou. Ça me maintient d'abord en connexion avec la réalité, avec le travail physique, avec les déceptions quand des animaux meurent, avec les difficultés paysannes. Et puis, ça me permet aussi de pas devenir une affreuse politicienne qui se sentirait obligée d'être réélue à chaque fois parce qu'elle n'aurait plus rien d'autre dans sa vie, au point de faire n'importe quelle fausse promesse ou de raconter n'importe quoi pour exister. Voilà, donc la ferme, il faut qu'elle continue. Elle est forcément un peu moins dans l'innovation ou dans l'invention, puisque ma collaboratrice, elle-même, débute sa carrière de bergère. Elle a découvert le métier il y a 1 an et demi, donc il faut qu'elle s'approprie pleinement le métier. J'ai beaucoup de chance d'être à un endroit où je peux influer modestement et localement, hein, mais je peux m'impliquer dans la vie locale. Donc je veux pas m'en éloigner. Peut-être que je serai obligée de m'en éloigner si jamais je ne suis pas réélue ou si jamais je ne veux pas me représenter dans quelques années. Mais pour l'instant, c'est un grand honneur doublé d'une grande responsabilité et ça donne du sens à une vie, en fait, de se sentir utile au-delà de simplement faire des enfants, gagner sa vie et mener une vie heureuse pour soi. J'ai beaucoup de chance. Je suis infiniment heureuse, pleinement épanouie.
Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis. Réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.